Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez un petit peu de mémoire. Moi, j'en ai plus beaucoup. J'étais surpris d'ailleurs. Samedi dernier, il y avait Quartier Libre. Je racontais une histoire aux enfants. Puis, il y a une petite fille qui me dit « Ah, mais je me rappelle de la dernière histoire. » Et puis, elle commence, c'était 8 mois auparavant. Elle se rappelait encore des détails de l'histoire. Je dis, oh là 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 là. C'est bien d'avoir un cerveau pas abîmé encore. Hein. Avec de la mémoire. Alors, on est dans le troisième dimanche de l'Avent, si je ne me trompe pas. Et j'avais choisi cette année de réfléchir sur la méthode de Dieu qui débute avec la naissance du Christ. Hein. Si vous vous rappelez, c'est pour ça que je parlais de mémoire, le premier dimanche, j'ai abordé le sujet de la discrétion d'un Dieu incognito, changement de méthode. Dans l'Ancien Testament, hein, il y a de l'or, il y a des bruits, il y a des trompettes, il y a de la fumée, il y a les ennemis qui meurent, il y a la prospérité pour ceux qui marchent avec Dieu. Et puis Jésus vient incognito naître dans une étable. Et Dieu n'a pas changé parce que Dieu ne change pas, mais sa façon de communiquer change, notre compréhension aussi. Et il vient amener un royaume qui n'est pas visible à l'œil. Hein. Mon royaume ne vient pas de façon à frapper les regards. Un royaume qui vient dans la discrétion. La semaine dernière, j'ai abordé le thème toujours sur la méthode de Dieu, cette nouvelle façon de travailler. Les réponses que Dieu nous donne sont à part miracle, de temps en temps, ça existe, on y croit, ça existe encore aujourd'hui. Mais la plupart du temps, sous forme de semences. Nous avons besoin d'ombre et il nous donne une graine d'arbre à planter et à cultiver. C'est la méthode de Dieu. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais continuer avec un autre aspect. J'ai choisi d'utiliser au singulier la méthode de Dieu, parce que ce n'est pas des méthodes, c'est sa façon de faire. Hein. Sachant qu'il fait ce qu'il veut et comme il veut, mais c'est ce que Christ est venu nous révéler en venant sur terre, déjà dans la façon dont il est né. Et ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais qui est important, on a du mal à le comprendre. Il est venu nous montrer comment Dieu pouvait manifester sa force dans notre faiblesse. Christ est la démonstration par sa vie sur terre de ce que Dieu peut faire au travers de la faiblesse. Dieu aurait pu choisir de venir sur terre. Hein, avec de l'autorité, avec des armées, avec de la puissance, avec de la force, chasser les Romains dehors, reprendre le contrôle de Jérusalem, être un roi qui règne et puis qui s'attaque aux problèmes politiques, économiques, sociaux et qui impose son royaume. Et en fait, on a un enfant qui naît, qui est tout faible, qui est une semence de réponse. Hein. Il faut attendre 30 ans avant qu'il puisse faire un peu quelque chose. Et finalement, il va rester en apparence faible jusqu'au bout. Lorsqu'il est dans le jardin de Gethsémané à la fin de sa vie, et Pierre sort son épée pour le défendre par la force. Il dit « Non, non, rengaine ton épée, pas la peine. Je pourrais appeler une légion d'anges qui viendraient m'aider, mais ce n'est pas le plan de Dieu. » Et il va accepter d'être faible. Alors que lui pouvait être fort. Hein. Nous, quand on est faible, on n'a pas le choix. Mais lui aurait pu être fort et il ne fait pas. Et de faiblesse en faiblesse, ben, il va être maltraité, fouetté, cloué sur la croix. Et puis jusqu'au bout de la faiblesse, abandonné tout seul, il va mourir. Et ce sera la plus grande victoire de Dieu. Et cette leçon-là, au-delà du fait de ce que Jésus a fait pour nous, bien sûr, qui est essentiel, hein, ce qu'on appelle en général l'œuvre de Christ, avec une majuscule, venir mourir à notre place, mais il y avait plusieurs façons de le faire, et la méthode aussi nous parle, parce qu'il est venu le faire dans la faiblesse. Et non seulement dans la faiblesse, mais on voit aussi que les gens qu'il a choisis, ben justement, c'était ni les forts, ni les puissants, ni les riches, ni les célèbres. Et il va prendre des gens ordinaires, d'une part, les pêcheurs, voilà, c'était les ouvriers de l'époque, ou les artisans en tout cas, mais des gens assez simples. Et puis, il va aussi avoir un collecteur d'impôts pour les Romains. Dans les gens qui le suivent, il y a une dame qui, avant ça, avait une autre profession, beaucoup plus ancienne. Et puis, etc., etc. Des gens que personne ne voulait, lui, il va les rassembler et puis en faire ses disciples et puis commencer après son église. Et c'est la façon de Dieu de travailler. Et Paul, l'apôtre Paul, qui n'a pas connu le Christ sur terre pendant son vivant, hein, qui a été interpellé alors qu'il était plein de force en train de persécuter le christianisme. Paul était vraiment un homme fort, fort dans... qui utilisait la force et qui était fort. Il était violent. Aujourd'hui, on le qualifierait de terroriste, à juste titre. Il pourchassait les hérétiques pour les mettre à mort. Mais il était fort aussi dans ce qu'il faisait. Il était violent avec lui-même aussi. Il s'imposait de la discipline, etc. Et il va être complètement projeté dans une autre vie, jeté de son cheval au départ, rendu aveugle. Donc, de fort, il devient faible. Il n'y voit plus. Quelqu'un d'autre doit le conduire. Et puis, les gens qui venaient pour tuer vont devoir prier pour lui. Et puis là, il va se mettre à l'écart pendant des années, dans un désert, être enseigné par Christ de façon surnaturelle, et revenir avec une compréhension complètement différente. Et je veux vous lire deux textes extraits de la première et de la deuxième lettre qu'il écrit aux croyants de Corinthe. 1 Corinthiens 1, 21, pour commencer. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs veulent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et puis, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 7, c'est un peu plus court. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de la grandeur de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ces textes qu'on a un peu du mal à comprendre, ou qu'on comprend peut-être des fois de travers aussi, hein, sont très importants parce qu'ils soulignent cet aspect de la méthode de Dieu. Dieu a choisi d'utiliser la faiblesse et puis d'utiliser les gens qu'on met normalement de côté. Alors on peut réfléchir, mais dans chaque culture c'est différent. Mais réfléchissez 2 minutes aujourd'hui, quels sont les gens qu'on n'aime pas, hein? Les derniers qu'on voudrait dans notre église, ceux qu'on n'aimerait pas inviter pour notre repas de famille, ceux qu'on n'a pas envie de croiser le soir dans la rue. Et Dieu dit, tiens, c'est ceux-là que je vais choisir pour travailler avec eux. L'essence même du péché, c'est l'orgueil. Lucifer, qui n'était pas quelqu'un qui ne croyait pas à Dieu, comme nous, souvent, on est préoccupé par ça. Est-ce que les gens croient à Dieu ou ne croient pas à Dieu ? Ce n'est jamais un problème de croire ou de ne pas croire. La disposition de cœur de Lucifer était « Je suis meilleur que Dieu. Je sais mieux que lui ce qui est bien. Je suis plus fort et je mérite la première place. Hein ?» C'est ça l'essence du mal. Et il a injecté ce poison dans le cœur des humains et nous fonctionnons pareil. Hein. Nous savons ce qui est bien, nous sommes les plus forts, nous sommes le centre de l'univers et de l'orgueil découle l'égoïsme et l'égocentrisme. Et puis là-dedans, on a toute la racine du mal qui a sur notre terre et qui est dramatique. Et lorsque Christ vient... Il ne vient pas résoudre le problème du mal par la force. Hein, Jésus, Dieu sait que ça ne marche pas. On a déjà eu un déluge. J'ai entendu une citation cette semaine d'un poète, j'ai oublié le nom du poète, mais j'ai retenu la citation, qui disait « Vous savez pourquoi Dieu a promis qu'il n'y aurait plus jamais de déluge ? Parce qu'il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Hein, » Alors, c'est pas la raison pour laquelle il n'y a plus de déluge, mais c'est intéressant comme réflexion. Ça ne marche pas. Le déluge n'a pas éradiqué le mal de la terre. Il a éradiqué un certain mal à cette époque-là. Mais il restait Noé, un homme qui croyait en Dieu, il y a eu des problèmes dans sa famille déjà, et puis après, ça revient toujours. Hein. Si on doit éradiquer le mal par la force, il faut effectivement éliminer, mais alors complètement cette fois, l'espèce humaine, et puis c'est fini. Mais Dieu a choisi une autre méthode de nous racheter, et il a choisi le changement par une action qui vient de lui, mais qui se manifeste au travers de la faiblesse. Et Paul, cet homme qui avait... c'était un homme riche au départ, un homme cultivé, avec des connaissances dans les deux cultures auxquelles il... Un homme multiculturel, hein. C'était un érudit chez les Juifs, mais c'était aussi un érudit chez les Grecs, avec une bonne famille, etc., une bonne position, une bonne place sociale dans la société. Et c'est devenu un paria, un gars qui a passé une partie de sa vie en prison, qu'on accusait de tout et de son contraire, qui était critiqué dans tous les sens, et qui arrive à cette conclusion... C'est quand je suis faible que je suis fort et je me glorifierai de mes faiblesses parce que Dieu peut se manifester au travers de ça. Et c'est, je crois, quelque chose qui est important. On va célébrer, comme ça nous a été rappelé, la venue du Christ. C'est un changement de paradigme. Encore une fois, ce n'est pas Dieu qui a changé, mais on a vu le non-fonctionnement des méthodes d'avant. Et il y a autre chose qui a amené. Et justement, le royaume de Dieu est un endroit où ce n'est pas les forts qui dominent. Les forts servent. Hein. Les forts sont les grands, les chefs, sont ceux qui servent les autres, comme Jésus l'a dit et surtout l'a fait. Et dans ce royaume-là, la force vient de Dieu et elle se manifeste dans la faiblesse de ceux qui l'accueillent. Et on doit accepter ça dans les deux sens, et c'est pas simple. Parce que ça veut dire que d'une part, je dois arrêter d'attendre ou de vouloir être fort pour servir Dieu. Hein. On a toujours cette impression, quand j'aurai réglé ça dans ma vie, quand je me serai débarrassé de ça, quand j'aurai acquis toutes ces connaissances, quand je serai quelqu'un de bien, je vais pouvoir servir Dieu. Et Dieu dit, commence par me servir maintenant que tu es faible. Et puis tu vas aussi apprendre des choses, tu vas faire des progrès, mais il ne faut pas attendre d'être fort. Hein. Et on a du mal avec ça. On est tous pareils. Les jours où on est conscient d'être passé à côté de ce que Dieu voulait pour nous, d'une façon ou d'une autre, que ce soit, peu importe, chacun nos vies, hein. On a du mal dans ces moments-là de s'approcher de Dieu tranquillement pour le louer. On ne se sent pas bien. Et puis on pense qu'il faudrait d'abord qu'on souffre un moment, qu'on reste loin de lui un certain temps. Hein, puis on laisse passer un jour ou deux. Puis après, on peut revenir. Quoi. Alors si on a péché, Christ est mort pour ça. Il faut confesser nos péchés. Hein, ce n'est pas, Ce n'est pas quelque chose de léger. Ouais. On reconnaît qu'on a péché. On est pardonné parce qu'on a déjà été pardonné. Donc, on est pardonné sur le moment, dans notre expérience. Mais on n'a pas besoin d'être fort. On n'a pas besoin d'y arriver. Et d'ailleurs, je précise, faiblesse, ça ne veut pas dire péché. Hein. Certaines de nos faiblesses sont les conséquences de nos péchés, des fois, oui. Mais une faiblesse n'est pas un péché. Et toutes nos faiblesses ne sont pas les conséquences de nos péchés. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Il y a certaines choses, ben voilà, je choisis de faire quelque chose que je ne devais pas faire. Et ça va avoir des répercussions dans ma famille, par exemple. Et puis ben là, je vais me retrouver dans un état de faiblesse. Et dans ce cas-là, la faiblesse dans laquelle je suis est la conséquence de mon péché. Mais il y a des faiblesses qui ne sont pas les conséquences de mon péché. J'ai ce point faible, c'est difficile pour moi dans ce domaine-là. Je sais pas, pour certaines personnes, par exemple, c'est très compliqué d'entrer en relation avec les autres. Puis elles ont tendance à s'isoler, et puis elles ne veulent pas voir les autres, et puis elles se sentent faibles dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas un péché d'être comme ça. Hein. Etc. Donc on a, nos particularités, ou nos... Ouais, ce qui fait qu'à un moment, il y a un endroit où c'est un peu abîmé, c'est un peu cassé, c'est un peu fêlé. Hein. Pour Christ, qui est venu dans la faiblesse, pour lui, bien sûr, ce n'était pas lié au péché. Hein. C'était le fait d'accepter de ne pas utiliser la force chaque fois qu'il aurait pu. Il aurait pu expédier les soldats romains, il aurait pu empêcher que la crucifixion ait lieu, il aurait pu... Et il a choisi de ne pas le faire. On va dire que ça, c'est la plus haute forme de faiblesse quand elle est le résultat d'un choix libre. Je pourrais exercer la force... Et je choisis de rester dans la faiblesse parce que c'est ce que Dieu veut pour moi maintenant. Mais quelqu'un comme Paul, qui était quelqu'un qui voulait, qui savait, qui avait de l'énergie, un petit peu comme Jacob dans l'Ancien Testament, hein, à qui Dieu a dû déboîter la hanche pour qu'il boite et puis qu'il commence à marcher avec Dieu, paradoxalement. Paul réalisait que sans ces difficultés qui venaient contre lui, il était trop sûr de lui et Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Et on devrait apprendre à passer de l'état où je déteste mes faiblesses à j'accepte mes faiblesses et finalement je les aime. Et c'est le processus de toutes nos vies, d'autant qu'en vieillissant, on devient de plus en plus faible dans certains domaines. Mais voilà, de passer de « non, je ne veux pas être faible » à « ouais, ok, j'accepte que je suis faible ». Et finalement, réaliser « en fait, j'aime être faible ». Mais pas parce que j'aime être faible, personne n'aime l'être. Hein. Mais j'aime l'être parce que j'ai réalisé ce que ça permettait à Dieu de faire. Et c'est impossible d'arriver dans cette étape-là si on n'a pas compris le préalable. Hein. À la fin du premier texte que j'ai lu, Paul dit « C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qu'il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Je ne peux pas aimer la faiblesse si je n'arrive pas à expérimenter le fait que Dieu m'aime sans que je fasse rien. Quand je suis faible et incapable à le servir, il m'aime parfaitement. Si je ne suis pas rassuré par son amour en comprenant ça, alors je ne peux pas accepter d'être faible. Parce que je suis toujours en train de vouloir être fort pour qu'il m'aime. Et c'est pour ça qu'on met souvent les choses à l'envers. Hein. On veut faire des choses pour Dieu, et puis si je les fais bien, Dieu est content de moi et je m'approche de lui. Et Dieu dit non, accepte que je t'aime comme tu es, c'est-à-dire faible et imparfait. Et quand tu es solide dans cette compréhension-là, tu vas réaliser que je peux me servir de toi sans que tu deviennes quelqu'un d'autre. J'ai juste besoin que tu sois le canal par lequel ma vie circule. Je n'ai pas besoin que tu sois un super-héros. J'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin que tu m'obéisses, j'ai besoin que tu sois disponible, et tu n'as pas besoin d'être fort pour ça. Et je me suis aperçu, autant dans ma vie qu'en observant autour, mais déjà chez moi, que j'avais du mal des deux côtés. Et j'ai autant de mal à accepter que Dieu m'aime quand j'y arrive pas, que c'est que j'ai du mal à ne pas me sentir quand même un peu bien quand il se sert de moi. Dans les deux sens. Hein ? Parce que chaque fois, je vois qu'il y a des moments de ma vie où je fais le constat que ça ne va pas en ce moment. Quoi. Pas que je vis dans les horreurs et dans le péché, juste ça ne va pas. Je suis tellement faible, j'y arrive pas. Et je lis ma Bible, elle ne me parle pas. Et prier, j'en ai pas envie. Et les frères et sœurs, j'ai pas envie de les voir. Et c'est compliqué. Et tout est une lutte. Et ça fait mal partout. Il faut se traîner. Et dans ces moments-là, s'arrêter et dire hein, Dieu m'aime là parfaitement. J'ai du mal. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose. Dieu m'utilise au travers de moi. Quelqu'un est béni ou quelqu'un se convertit ou est encouragé. Il me le dit. Et là, tout d'un coup, je m'approche de Dieu. Seigneur, toi et moi, on fait quand même des bonnes choses ensemble. Tu as fait une belle affaire en me rachetant. Hein, parce que quand même, si je pense à d'autres... Hein, et j'ai tort dans les deux cas. C'est fou. Parce que Dieu dit non. Cette personne a été bénie parce que justement, ça n'allait pas. Et puis, je suis passé au travers de toi et je l'ai touché. Et je ne t'aime pas plus, pas moins. Ça n'a rien à voir. Hein. Et c'est pour ça que Paul termine, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et le deuxième texte dit la même chose. C'est que lorsque je suis conscient que je suis faible, mais que je laisse quand même Dieu travailler au travers de moi, alors je vois sa force se manifester. Et comme c'est un moment où je suis conscient que je suis faible, c'est plus facile pour moi de ne pas m'attribuer le « finalement, je suis quand même quelqu'un de bien hein ». Oui, je suis quelqu'un de bien, parce que Dieu m'aime. Et ce principe-là, avec lequel on a tellement du mal, parce que c'est contre nature pour l'être humain, qui a besoin d'être fort pour être le chef, pour être le meilleur, pour être premier, pour dominer, dans l'espoir qu'on l'aime. Et Dieu dit, on démonte cette pyramide et on part à l'envers. Je t'aime, comme tu es. Je le prouve, je donne mon fils, ce que j'ai de plus cher. Et je paye le prix maximum. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour te prouver que je t'aime ? Paul dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsqu'on était encore avec le marteau dans les mains, en train de planter les clous dans les mains, les pieds du Christ, à ce moment-là, il a dit, je vous aime. Il ne peut pas faire plus. Hein ? Pour qu'ensuite, on se laisse aimer et on lui offre nos vies et qu'on accepte d'être faible et que là, il puisse... passer à travers nous et toucher autour de nous. Et bien sûr, heureusement, quand Dieu passe au travers de nous pour bénir les autres, on est, nous, bénis, encore plus que l'autre. C'est la récompense du tuyau. Il est rafraîchi avant la plante, parce que l'eau circule au travers de lui. Et c'est ce que Dieu veut. Et Paul avait, à la dure, hein, parce qu'il en a pris des claques, hein. Il s'est cassé quelques paires de dentiers sur des murs en granit. Hein. Il a appris cette leçon violemment jusqu'à ce que finalement il réalise en fait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et c'est dans cette compréhension-là qu'il peut dire alors j'aime ma faiblesse, mais personne n'aime être faible. Hein. Mais un peu comme quand Jacques dit réjouissez-vous des épreuves qui vous arrivent, mais personne ne se réjouit des épreuves. On se réjouit en comprenant que ces épreuves ont permis que je grandisse, que je comprenne ci, que je comprenne ça. Ce n'est pas l'épreuve qu'on aime, ce n'est pas la faiblesse qu'on aime. Et en même temps, on l'aime parce qu'on réalise qu'elle est notre alliée. Je suis tellement faible que je vais m'écrouler. Et puis, c'est ce que Christ est venu nous démontrer, parce que les théories, c'est bien, mais voilà... Comment quelqu'un qui est faible, qui choisit la faiblesse, peut être le plus fort. Et lorsque le diable triomphe parce que Christ est sur la croix dans une faiblesse, comment peut-on être total, comment peut-on être plus faible que tout nu avec des clous dans les pieds, dans les mains, sur un bout de bois après s'être fait exploser le dos à coups de fouet et y a tout. Il n'y a pas plus faible que ça, quoi. Il y a la faiblesse physique, il y a la faiblesse, ben, il a échoué, il y a ses disciples qui sont partis, il y a sa maman qui est là, qui souffre. Il n'y a pas plus faible que ce moment-là. Et en même temps, c'était le triomphe de Dieu. Et il passe par là, et puis il y a la résurrection derrière. Et c'est cette méthode-là qui est inaugurée par cette naissance discrète dans une étable, une petite semence, un bébé, qui sort là, hein, qu'il faut changer, qu'il faut allaiter, qu'il faut ci, qu'il faut ça, qui est incapable de se débrouiller tout seul. Jusque finalement, quand il rentre dans son ministère actif, c'est pour nous montrer la faiblesse remplie de Dieu, c'est la force. Alors c'est peut-être pas très réjouissant comme message ce matin, c'est pas très festif pour Noël, mais si, c'est le message de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de Noël. Seigneur, merci pour ce que tu es venu nous montrer, nous expliquer. Mais tu vois combien c'est dur pour nous de le comprendre, de l'assimiler. On l'entend, on comprend les mots, mais ce n'est pas naturel que ce soit appliqué à nos vies. Et nous voulons nous ouvrir à toi, à ton esprit, à ta vie en nous, à ton intelligence spirituelle, pour qu'elle vienne remplacer notre sagesse naturelle, notre désir d'être fort, célèbre, connu, reconnu, et que nous puissions, nous aussi, comme Paul, en arriver non seulement à accepter, mais à aimer notre faiblesse si elle nous permet de laisser passer ta force, et que ta gloire soit manifestée, que la gloire te revienne, Seigneur. Alors fais ce travail dans nos cœurs et dans les cœurs de tous ceux qui sont autour de nous et partout sur cette terre. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite. Amen.